Tous les mois, sur Fréquence Mistral, retrouvez votre émission littéraire « Des coups au cœur ». Émission proposée par Anne-Marie Smith et Tiziana. L'association Littera 05 vous propose de voyager au gré des pages et de vous évader avec les bouquins coup de cœur.
Littera 05 est au rendez-vous pour un nouveau coup au cœur. J'ai souhaité vous présenter « Ce qu'il faut de nuit » de Laurent Petit-Mongin, un roman publié en 2020 chez un petit éditeur, La Manufacture de Livres. « Ce qu'il faut de nuit » se présente comme un long monologue, une introspection, une confession. C'est le monologue d'un père, un cheminot de Lorraine, puisque l'action se déroule dans la région de Nancy. Un père qui s'occupe de ses deux fils qu'il élève seul après la maladie et la mort de sa femme. C'est l'évocation, un peu triste bien sûr, de la fin de l'enfance et de l'adolescence de ses deux garçons. L'aîné, Fus, comme Fusball, puisqu'il est très fort au football, et le puîné qui s'appelle Gilou. Le récit est très bien construit, car on sent que quelque chose monte tout au long de la narration. On sent que quelque chose va se passer, il y a une tension, jusqu'au moment où ça va déraper, jusqu'au drame. Il s'agit en effet d'un récit dramatique. En fait, c'est l'histoire d'une vie ordinaire qui bascule dans l'extraordinaire. Laurent Petit-Mongin a dit, à propos de son récit, « Je voulais dire comment les faits se précipitent. » Et je dois dire qu'il est réussi parfaitement. Il s'agit d'un livre modeste, par la brièveté, 180-190 pages à peu près, par la langue, qui est une langue simple et authentique, comme parler. C'est la langue simple d'un homme simple, qui, on le sent bien, est de nature plutôt taiseux. Ainsi, les phrases sont courtes, les descriptions brèves, les évocations se font par touches. C'est un style, je dirais, plutôt sec. Le roman s'inscrit dans la veine du roman social et réaliste, puisqu'il est ancré dans une réalité contemporaine bien précise. Il s'agit de la France des déclassés, la France des périphéries, comme on a pu l'appeler, comme on l'entend dans les médias, ou alors on entend aussi les termes « la France pavillonnaire ». Cette évocation réaliste de la société française se fait sans a priori idéologique. Et c'est ce qui est intéressant, selon moi. On peut évoquer certaines scénographies, certains lieux du récit. Souvent, les personnages sont sur un terrain de foot, puisque les enfants pratiquent le football. Ou alors, la scène se passe devant un kebab. Les personnages du récit, ce sont des personnages qui mangent des pizzas, des sandwichs, qui boivent de la bière. Ou alors, la scène se passe dans la cuisine, à l'heure du petit déjeuner, quand c'est l'heure de partir au boulot. Il y a aussi des vacances qui sont évoquées, des vacances dans un camping, lorsque les deux garçons font un stage de football. Comme on voit, c'est le récit de monde qui meurt, le monde ouvrier qui meurt avec les fermetures des usines, la section du PS locale qui se vide, et puis aussi les bandes de jeunes qui gravitent dans le sillage du FN. Je vous lis un premier extrait qui illustre bien cette réalité sociale. À 5 heures, quand j'ai le courage, je vais à la section. Il y a de moins en moins de monde depuis qu'on n'y sert plus l'apéro. Ça devenait n'importe quoi. Les gars ne travaillaient plus et attendaient juste qu'on sorte les bouteilles. On est 4, 5, rarement plus. Pas toujours les mêmes. Plus besoin de déplier les tables comme on le faisait 20 ans avant. La plupart ne travaillent pas le lundi. Des retraités, la Lucienne qui vient comme elle venait du temps de son mari avec un gâteau qu'elle découpe gentiment. Personne ne parle, tant qu'elle n'a pas coupé 8 belles parts bien égales. Un ou deux gars au chômage depuis l'Antiquité. Les sujets sont toujours les mêmes. L'école du village, qui ne va pas durer en perdant une classe tous les 3 ans. Les commerces qui se barrent les uns après les autres. Les élections. Ça fait des années qu'on n'en a pas gagné une. Aucun de chez nous n'a voté Macron. Pas plus pour l'autre. Ce dimanche-là, on est tous restés chez nous. Un peu soulagés quand même qu'elle ne soit pas passée. Et encore, je me demande si certains, au fond d'eux-mêmes, n'auraient pas préféré que ça pète un bon coup. C'est un livre modeste, donc, mais c'est surtout un récit d'une grande intensité émotionnelle. Sans pathos, cependant, sans sentimentalisme. C'est ce que j'apprécie dans les livres. C'est essentiellement l'histoire d'un éloignement. Le fils qui échappe au père, un mur qui se dresse entre eux. Cela commence de façon classique par un décrochage scolaire et puis cela continue avec de nouvelles fréquentations du fils, une évolution que le père voit, il la constate cette évolution, mais il n'arrive pas à la stopper. Et donc, c'est le récit d'une impuissance paternelle à protéger son fils, car Fus zone désormais avec les gars du FN. Et voici un second extrait du livre. C'est le Bernard de la section qui m'avait alerté. Dis voir, t'as 5 minutes, il faut que je te dise quelque chose. Tu sais qu'on a tourné hier avec les camarades près du dépôt. On collait pour le 1er mai quand on a vu la bande des pieds nickelés du FN au bout des voies. Ils collaient eux aussi pour leur Jeanne d'Arc, sous le pont et sur tout le mur qui va jusqu'à l'aiguillage. On s'est branchés à distance. On était le même petit nombre, pas mieux, pas moins outillés qu'eux. Personne n'avait vraiment envie d'aller à la baston. Le Mimille et l'Ominété étaient déjà rentrés. On n'était pas les plus virulents. Et comme en face, il n'avait pas l'air plus décidé, on s'est contenté de s'insulter, puis d'attendre. On est repassé 2 heures après pour recoller sur leurs affiches. Et j'imagine qu'ils nous ont salopé le travail depuis. C'est la vie, que veux-tu ? Je n'avais pas vu où ils voulaient en venir. Ça faisait longtemps que je ne sortais plus collée. Et ces histoires me passaient maintenant au-dessus de la tête. C'était un jeu à qui aurait le dernier mot. Chacun avait ses bastions. Des endroits qui ne supportaient que ces couleurs. Il fallait les voir, certains matins, contents de leurs coups, quand ils avaient envahi d'affiches les terres de l'autre. Ce qui me chiffonne, avait continué le Bernard, c'est que je crois avoir aperçu le fus qui zonnait avec eux. Je n'en mettrais pas ma main à couper, mais il y avait ce grand qui avait la même dégaine que ton fils. Les copains n'ont rien remarqué, mais je suis à peu près sûre. Un blouson avec un grand apache sur le dos, c'est lui ? Peut-être, enfin non, je ne crois pas. C'est tout ce que j'avais balbutié. Le Bernard avait simplement continué. Te bile pas, c'est des conneries de jeunes. Faudrait juste pas qu'ils tombent mal. Tu les connais chez nous, il y en a des teigneux qui n'hésiteraient pas à cogner, même sur ton fils. Et en me donnant une grosse bourrade, si c'est pas malheureux de retourner comme ça à la tête des gosses qu'il avait conclu. Fus avait 22 ans, ce n'était plus un gosse. Que fabriquait-il avec ses fachos ? Il y a donc une rupture avérée avec les valeurs familiales, puisque le père est de gauche, et Fus, il va aller à l'opposé. C'est ça, l'éloignement. Et le roman montre alors comment la communication verbale entre un père et un fils peut parfois être difficile. Laurent Petit-Mangin a eu l'occasion de dire, j'ouvre les guillemets, j'ai voulu raconter la relation entre un père et son fils, mettre en évidence la difficulté, interroger l'incapacité d'un père à trouver les mots. Il y a donc, comme je le disais, dans ce récit, une grande intensité émotionnelle. Et comme dans la tragédie antique, c'est le destin qui va faire irruption dans le récit et qui, bien sûr, va provoquer le drame. Et avec cette irruption du destin, avec le drame, pendant toute la seconde partie du récit, le lecteur est face à la question lancinante du narrateur, la question que le narrateur se pose à lui-même, comment aurait-il pu éviter cela? Dans quelle mesure est-on responsable de ce qui advient? Et surtout, comment vivre avec cela? Comment vivre avec le drame? Comment vivre après cela? C'est un homme digne, pudique, intègre, qui raconte son histoire, qui exprime son sentiment de culpabilité et son impression d'avoir été lâche, de ne pas avoir pu faire obstacle à ce destin malheureux. C'est un roman plein d'amour paternel. Comme le dit Laurent Petit-Mongin à propos de ses lectures, j'ouvre les guillemets, « J'aime lire les romans humanistes, j'aime lire la pensée politique, sociale, derrière la fiction. » Oui, j'ai aimé ce roman humaniste. L'auteur, Laurent Petit-Mongin, est né en 1965 en Lorraine, dans une famille de cheminots. Il vit aujourd'hui près de Roissy, car il est cadre à Air France. Ce qu'il faut de nuit est son premier roman, bien qu'il écrive depuis une bonne dizaine d'années. Ce premier roman, qui a reçu le prix Stanislas, qui couronne le meilleur premier roman de la rentrée littéraire, et également le prix Fémina des lycéens pour l'année 2020. Merci pour votre écoute. Bonne lecture.
Tous les mois, sur Fréquence Mistral, retrouvez votre émission littéraire Des coups au cœur. Émission proposée par Anne-Marie Smith et Tiziana. L'association Littéra 05 vous propose de voyager au gré des pages et de vous évader avec les bouquins coup de cœur.